Bonjour à tous. Au nom des Chroniques pour la paix, je voudrais tout d'abord rendre hommage à Vladimir Spiro, qui nous a quittés le 26 novembre dernier. Avec Gérard Hacoun et d'autres, Vladimir Spiro avait créé Radio Judaïque FM il y a plus de 40 ans. C'est cette radio qui avait accueilli il y a une vingtaine d'années déjà notre émission Chronique pour la paix et nous souhaitions alors faire entendre les voix de la raison là-bas et ici. Cette volonté reste celle qui nous anime encore aujourd'hui, mais dorénavant, nous sommes sur Radio Shalom. Sylvie Ligi, au micro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Alors, Harivon Harivii, le quatrième quart en français. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement citoyen qui veut transformer le système politique israélien très clivé et créer un large consensus permettant une action commune. Un mouvement qui s'est donné pour mission d'apaiser les tensions et d'opérer des changements majeurs. C'est du moins ce qu'on peut lire sur son site internet. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Uri Weber, l'un des initiateurs et animateurs de la section francophone du 4e quart de Rivon Harivii. Uri Weber est sociologue et membre du kibbutz Yechiam. Il a publié en 2022 « La gauche israélienne, dialogue entre générations » aux éditions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès. Bonjour Uri Weber.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, oui. Votre mouvement cherche à endiguer la polarisation de la scène politique israélienne et on dit de vous que vous êtes des centristes sympathiques et patriotes qui prônent le dialogue, l'unité et le compromis. C'est bien ça.
Disons qu'en gros, c'est cela, bien que nous sommes critiqués aussi bien par la gauche que par la droite. Vu que ce sont des deux côtés, donc c'est bon signe.
Donc c'est bon signe. Alors en fait, vous dites qu'il y a un dialogue possible. Enfin, selon vous, un dialogue serait possible entre ceux qui tentent de faire d'Israël une dictature, une théocratie, disons, illibérale, et ceux qui s'opposent à la refonte judiciaire et qui passent pour d'odieux gauchistes. Est-ce que...
Il y a un clivage artificiel et il y a un clivage réel. Le clivage artificiel, c'est les deux extrêmes qui n'arrêtent pas de se combattre et de s'insulter de tous les noms, les uns en disant que ce sont des fascistes, les autres en disant que ce sont des traîtres, etc. etc. Alors ce combat, il occupe tous les médias, on est publié partout, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a à peu près 70-80% de la population qui est beaucoup plus modérée et qui a du mal à se retrouver dans ce clivage et surtout dans l'extrémisme exprimé par ces deux courants.
Qu'est-ce qui vous fait dire que les 80% de la population, parce que c'est eux qui, en fait, qui vont manifester tous les samedis et en semaine?
Non, ce ne sont pas eux qui vont manifester.
Ce sont uniquement des extrémistes qui vont manifester, selon vous?
Ce sont 10% à peu près du côté libéral de gauche, libéral laïque israélien. Ce sont eux qui vont manifester. Et les 10% de l'autre côté, ce sont les colons, les nationalistes, les religieux très nationalistes qui sont représentés au gouvernement par Smotrich et Ben-Gvir, mais qui ne représentent aussi que 10% de la population. Donc ce sont ces deux courants qui occupent les médias, qui préoccupent les médias, ou que les médias aiment à leur donner, à leur permettre de s'exprimer librement. Mais comme je le dis, il y a à peu près 70% de la population qui est modérée, qui a du mal à se retrouver.
Ça, c'est ce que vous affirmez, vous. Mais parce que c'est pas tout à fait ce que reflètent les sondages, il me semble.
Non, au contraire. Les sondages reflètent exactement cela.
Ah, voilà, parce que, en fait, dans les sondages, par exemple, Là, une grande majorité, 70% voire davantage, sont favorables à une répartition égalitaire, par exemple, du fardeau militaire, alors que les autres, qui sont beaucoup moins nombreux, heureusement, mais enfin quand même, approuvent le fait que des dizaines de milliers d'ultra-orthodoxes n'aient aucune obligation militaire.
Là, vous parlez sur des problèmes spécifiques. Moi, je parle en gros de comment est menée la politique. Comment sont résolus les problèmes? Il y a une manière de résoudre le problème en imposant une position minoritaire ou alors en créant une réelle discussion entre les différents courants, une discussion où les gens s'écoutent, parce qu'aujourd'hui personne ne s'écoute en Israël, de créer des conditions dans lesquelles les gens s'écoutent et prennent des décisions avec un accord le plus large possible.
Mais qui est-ce qui prend les décisions aujourd'hui ?
Sur le mode de la politique, pas sur des problèmes.
Oui, je comprends bien, mais...
Sur ça, sur le style et sur la manière dont la politique est menée en Israël ces dernières années.
Mais qui est-ce qui prend les décisions aujourd'hui en Israël ? En Israël, qui est-ce qui prend les décisions ?
C'est le gouvernement.
Ben voilà. Et donc, en fait, pour vous, ceux qui souhaitent l'indépendance de la Cour suprême, par exemple, sont à mettre face à ceux qui tentent, par exemple, qui vont protéger un homme, entre autres, un dirigeant qui tente d'échapper à la justice, et vous mettez un signe égal entre les deux.
Justement, à nouveau, vous parlez d'un problème particulier. Nous, on parle de la réforme de la justice. Si on parle de la réforme de la justice, alors on a réuni des gens de différents, des professionnels de différentes obédiences, ils ont rédigé ensemble des propositions de loi pour le prochain gouvernement qui sont acceptées aussi bien par les gens de gauche que par les gens de droite. Et c'est là-dessus qu'on travaille.
Parce que
c'est
pour vous aujourd'hui,
en politique. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est constitué comme il est constitué, il prend des décisions absolument absurdes, mais ce gouvernement a une fin, aura une fin. Nous, on parle donc du prochain gouvernement. Quel sera le style de gouvernance du prochain gouvernement? On voudrait que le prochain gouvernement, et surtout que ça vient par en bas, par la base, par un million de personnes qu'on essaye d'atteindre, aujourd'hui on est près de cet objectif, qui sont d'accord pour changer le style de gouvernance.
Les gens de la contestation, les leaders de la contestation notamment, sont favorables à un changement de mode de gouvernance. Mais par exemple, prenons quand même un autre sujet concret, pratique et immédiat, la commission d'enquête. Alors il y a une commission d'enquête d'État qui est réclamée par les citoyens, par l'immense majorité des citoyens, notamment par les familles qui ont souffert ces derniers temps, et la commission d'enquête proposée par le gouvernement. Alors, vous avez soutenu la commission d'enquête du gouvernement, proposée par le gouvernement.
Non, le problème n'est pas une commission d'enquête, oui ou non. C'est qui va constituer cette commission d'enquête. Okay,
absolument. Donc là,
il y a des divergences. Il y a des divergences.
Oui.
Est-ce que l'on peut réunir un groupe de travail qui arrive à un accord sur la constitution de ce comité d'enquête?
Commission d'enquête.
Et arriver à une solution là-dessus. A réuni des gens de droite et de gauche, ils se sont assis, ils ont rédigé.
C'est la commission, enfin ceux qui vont nommer les membres de cette commission d'enquête sont entre autres Ben Gvir, Smotrich et d'autres. C'est ce que le gouvernement propose et que vous avez soutenu.
Non, vous êtes à côté du truc. Celui qui est selon la loi qui constitue cette commission d'enquête, c'est le président de la Cour suprême. C'est lui qui doit la constituer.
Ah, maintenant, donc vous êtes revenu sur ce qui avait été dit, alors.
Non, c'est la loi. C'est la loi. Maintenant, il y a des divergences. Est-ce que c'est lui qui est tout seul qui doit décider, ou alors que ça soit une équipe un peu plus élargie?
Ah, en dehors de la Cour suprême, vous voulez dire? En dehors de la Cour suprême?
Ou alors à l'intérieur de la Cour suprême, mais que ça ne soit pas lui tout seul. Le Yvonne Rebilly propose que ça soit lui et son adjoint, qu'il y en ait deux, qui ensemble, ça. Mais
Il faut bien
définir les problèmes. Vous voyez, on a une caricature en disant que c'est Ben-Gvir qui va décider qui sera la commission d'enquête. Pas du tout. C'est pas du tout là-dessus qu'est le divergent, la divergence. La divergence est-ce que ça doit être le président de la Cour suprême tout seul, ou alors avec d'autres personnalités. Et là-dessus, il faut arriver à un consensus. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est essayer de ne pas imposer la solution d'une partie de la population à l'autre, mais c'est d'arriver à un accord le plus large possible après avoir écouté les uns et les autres. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans la politique.
Voilà, donc la commission que vous proposez... Donc vous ne faites pas confiance. En fait, c'est pas uniquement le président de la Cour suprême. Là, le gros problème, le gros conflit en fait dans cette question de commission d'enquête, c'est soit une commission qui va être proposée et constituée telle que la commission nommée par le groupe nommé par le gouvernement va la constituer, ou alors une commission d'enquête d'État, elle ne porte pas du tout le même nom, une commission d'enquête d'État qui serait alors indépendante et qui serait nommée par la Cour suprême. Mais, par exemple, je voudrais il nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais bien que vous nous disiez quelle est votre position sur la question de la violence des colons en Cisjordanie.
Vous ne parlez pas du Yvonne Rebilly, là. Non. Là, vous me posez des questions personnelles à moi.
Si on parle
du Yvonne Rebilly, alors on parle du Yvonne Rebilly. Le Yvonne Rebilly a surtout comme objectif de changer le style de gouvernance. Et c'est là-dessus qu'il y a truc. Maintenant, vous me posez des problèmes spécifiques sur tel et tel problème de la société israélienne. Ça peut être une autre interview.
D'accord. Qu'est-ce qui vous différencie des leaders de la contestation, de ce que les leaders de la contestation proposent, par exemple, ou de ce que les démocrates, qui proposent, parce qu'eux aussi souhaitent une nouvelle manière de gouvernance.
C'est la même chose. Ils veulent imposer leur croyance à la société israélienne et ils ne sont pas spécialement prêts à écouter les autres idées, la position ou les autres croyances des autres courants. Or, c'est ça ce qu'on veut. C'est que si l'on prend des décisions, on s'assoit après concertation avec les autres courants, et alors on voit, est-ce qu'on peut arriver à des accords, est-ce qu'on peut assouplir nos positions, etc. Or, aujourd'hui, les partis politiques, en général, ne sont pas prêts à assouplir leurs positions, ils veulent imposer leurs croyances aux autres courants de la société, et que ça soit à droite ou que ça soit à gauche, c'est le même style. Imposer ses croyances aux autres, et alors un jour c'est moi qui suis le plus fort.
Donc vous comparez...
Le lendemain c'est un autre qui est plus fort, et il impose ses croyances.
Voilà, vous pensez que par exemple le parti de Yair Golan impose ses convictions de la même manière que Smotrich impose traite d'un croyant de traître, etc., à tous ceux qui ne sont pas, ou les traites de non-juifs, à tous ceux qui ne pratiquent pas la religion telle que lui le conçoit. Vous mettez ça sur le même plan. Vous mettez ça sur le même plan d'imposer ses croyances.
Je ne parle pas de position, je parle de style.
Les deux, pour les deux, c'est la même chose, ils cherchent les deux à imposer leurs croyances de la même manière.
Dans une grande mesure.
Ouais.
Dans une grande mesure.
Vous n'avez pas répondu à la question des colons, mais je voudrais passer. Il y a des élections qui se profilent à l'horizon. On ne sait pas encore exactement quand ni comment. Mais voilà, on m'a dit. Alors, votre mouvement, pour le moment, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti. J'ai entendu dire ce matin, on m'a dit, je ne sais pas si c'est exact, que vous pensez vous transformer en parti politique et être en lice pour les prochaines élections.
Écoutez, il y a une branche, un courant, dans le cadre de la Bonne Rébille, qui pense créer un parti. Mm-hmm. Mais à partir, s'il crée un parti, il sort du mouvement, il se détache du mouvement, ils créent leur parti. Mm-hmm. Mais le mouvement continuera à travailler, parce que c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement de masse, et il continue à travailler pour ses objectifs propres, qui sont le changement de style de la gouvernance en Israël, avec une proposition de créer une constitution, etc. Il y a 12, c'est important à savoir, il y a 12 groupes de travail qui sont constitués sur les problèmes cruciaux de la société israélienne et qui réunissent des professionnels de gauche et de droite et du centre, et qu'ils essayent ensemble de faire des propositions qui seront acceptables aux différents courants de la société israélienne.
Alors, donc, s'il y a des élections, donc le courant, si j'entends bien, vous pensez, le courant principal va rester comme il est aujourd'hui, il ne sera pas un parti.
Le mouvement.
Voilà, le mouvement va être.
À être actif comme mouvement. Ouais. Et ceux qui décideront de créer un parti, ils décideront de créer
ils
un
sortiront.
Parti.
D'accord. Et alors, quelles sont les orientations, les consignes de vote que votre mouvement va donner, à votre avis? Dans quel sens est-ce que ça va aller?
Je pense que notre mouvement va décider d'un certain nombre de principes. Oui. Et il va dire, écoutez, votez pour les partis qui sont prêts à accepter ces principes que nous avons déclarés.
A priori, quels pourraient-ils être, a priori?
On va même demander aux partis de prendre position vis-à-vis de ces principes. Les partis qui diront qu'ils sont prêts à accepter ces principes, qui seront basés surtout sur l'écoute et la souplesse et la tolérance, etc. Ceux qui seront prêts à accepter ces principes, on dira en tant que mouvement.
Donc,
on
si
dira,
le Likoud.
Pour les partis qui sont les plus tolérants et ceux qui sont prêts à entreprendre une discussion et à diminuer au maximum le clivage ou même à supprimer ce clivage.
Mais si le Likoud dit. Si Likoud dit banco pour faire une constitution. Vous marcherez avec le Likoud à ce moment-là.
Avec chaque courant qui serait prêt à créer une constitution.
D'accord.
Le problème sera de savoir qui écrira cette constitution, quels seront ses principes, etc. Mais la constitution en tant que soi est nécessaire, absolument nécessaire en Israël. Mmh. Il faut la faire. Il faut savoir qui et comment.
Eh bien, écoutez, sur ces mots très enthousiasmants, je dirais, je vous remercie, Uri Weber. Merci beaucoup.
Ouais, merci à vous.